Je vais vous dire un truc que personne n'a envie d'entendre ce matin, mais je vais vous le dire quand même. Pendant que Wall Street se prend pour Las Vegas un samedi soir, pendant qu'on célèbre le 1000e record du S&P 500, pendant qu'on s'extasie devant une boîte qui vaut 95 milliards de dollars après avoir été cotée pendant, 6 heures, il y a quelque chose qui s'est passé hier. Quelque chose que pas un seul média grand public n'a couvert. Un truc qui, historiquement, signifie qu'on est entré dans une zone où on n'avait plus mis les pieds depuis 2007. Le marché obligataire vient de menotter le futur patron de la Fed avant même qu'il ait trouvé son casier dans le bâtiment. Le carry trade japonais est en train de se fissurer en silence et au-dessus de tout ça, on a un président qui achète des actions Boeing et Nvidia juste avant de partir en voyage diplomatique pour leur faire gagner du pognon. Bienvenue dans le grand cirque, aujourd'hui on va décortiquer tout ça et croyez-moi, c'est pas aussi joli que ça en a l'air. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Bayet et nous sommes le 15 mai 2026.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Bon, commençons par planter le décor. Hier soir, le S&P 500 a clôturé à 7501. Le Nasdaq a clôturé à 26635. Le Dow Jones a repassé les 50 000 points, presque sans effort. Et on ne compte même plus le nombre de records depuis 3 semaines. À un moment, ça devient simplement une plaisanterie statistique. Mais le vrai problème, c'est pas le record. Le vrai problème, c'est ce qu'il y a dedans, à l'intérieur du record. Il y a des statisticiens, des vrais gens avec des vrais spreadsheets Excel qui se sont penchés sur l'indice FTSE All World. Vous savez, c'est un indice qui contient 4250 titres dans le monde entier et ils ont calculé quelque chose de complètement fou. 50% de la performance du mois d'avril vient de 13 titres. 13 titres sur 4250. Je vous laisse faire le calcul. 0,3% des actions mondiales tirent la moitié du marché. Donc quand quelqu'un vous dit « Oh, les marchés montent », non, il y a 13 tarés qui tirent tout le reste. Et le reste, c'est de la figuration. C'est la Star Academy version Wall Street. Il y a Taylor Swift qui chante et il y a 4237 personnes derrière qui sont là pour faire les chœurs et applaudir poliment. Et tant qu'on y est sur le S&P 500, seulement 53% des actions sont au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. Normalement, quand l'indice est sur un top historique, on est plutôt vers les 77%. Donc le marché grimpe à un sommet jamais vu, mais en fait, il retient son souffle en espérant pouvoir continuer encore. Et puis alors, il y a Nvidia. Nvidia aujourd'hui, la capitalisation boursière de Nvidia après son record de hier soir, c'est 2 fois le PIB de la France. 2 fois le PIB d'un pays de 68 millions d'habitants. Et si vous prenez toutes les actions du DAX, toutes les actions du CAC et toutes les actions du SMI et que vous additionnez les market cap, eh ben vous arrivez toujours pas à celle de Nvidia. Donc voilà, en 2026, 3 indices européens, dont 2 puissances du G7 qui vont venir bloquer la région au mois de juin, valent moins que les puces de Jensen Huang. Et tout le monde trouve ça génial. Autrement, il y a la VIX aussi. La volatilité, elle est toujours en baisse. Plus ça monte, moins les investisseurs se couvrent. C'est l'optimisme appliqué au risque systémique. Si je ne regarde pas le précipice, c'est que le précipice n'existe pas. Et on en arrive donc à la transition naturelle vers le grand classique du capitalisme moderne, licencié pour faire grimper le titre. Avant-hier, Cisco a publié ses chiffres, mercredi soir. Les chiffres étaient bons, très bons même. Et dans la foulée, ils ont annoncé qu'ils viraient 4000 personnes. 4000 familles qui apprennent leur licenciement par une notification Slack. 4000 personnes qui vont devoir expliquer à leurs gamins pourquoi cet été, on va pas aller en Floride. Et qu'est-ce que fait l'action derrière? Elle prend 13%. Vous voyez, il fut un temps, il y avait un truc qui s'appelait la pudeur. Quand une boîte virait, le marché avait un petit malaise. On disait, ouais, bon, il restructure. Mais on n'achetait pas comme des cinglés. Maintenant, on a balancé tous nos complexes à la poubelle et dès que ça vire, bam, on achète. On achète parce qu'on adore quand on baisse les coûts. Parce que le pognon qu'on file plus aux 4000 ex-salariés, eh ben on le balance dans l'IA. Le carnet de commandes IA de Cisco passe de 5 à 9 milliards. Morgan Stanley jubile. Les analystes sortent leurs notes de recommandation comme on sort le champagne de la glacière. Le titre a fait gagner 180 points au Dow Jones hier à lui tout seul. Et donc, on n'a même plus besoin de rotation sectorielle. Il n'y a plus de secteur. Il n'y a plus de cyclique, il n'y a plus de défensif, il n'y a plus de value, il n'y a plus de growth. Il y a juste de la tech. De la tech, de la tech, de la tech. Et encore un peu de tech saupoudré par-dessus. Et puisqu'on parle d'IA et de tech, accrochez-vous parce que là, on va entrer dans le numéro de cirque de la semaine. Hier, il y a une boîte qui s'appelle Cerebras qui est entrée en bourse. Cerebras, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte qui fait des puces géantes. qui font des wafers de 30 cm de diagonale sur la taille d'une pizza 4 fromages, mais en silicium. Prix de départ du book building, entre 115 et 125 dollars l'action. Premier signal, c'est sur souscrit, donc on monte la fourchette à 150, 160. C'est normal. Deuxième signal, ça sur souscrit toujours et encore. Donc on fixe le prix d'émission finale à 185 dollars. Donc on est déjà passé de 115 à 185 avant même que la première transaction publique ait eu lieu. Hier à 15h30, ouverture. Les professionnels de la finance, oui, je dois dire que j'aime particulièrement ce terme, professionnels de la finance. Ben, les professionnels de la finance, hier, ils ont dit « Ouais, bon, allez, on s'en fout, on achète tout ce qui vient !» Le titre a ouvert à 350 dollars, soit plus 89% en 0 seconde de trading. Ensuite, il a continué. 360, 370, 380, et il est monté à 386. Et là, on stoppe la cotation parce que trop de volatilité, tu comprends. Ça rouvre, ça se calme. Le titre finit à 311 dollars en hausse de seulement 68%. Capitalisation boursière actuelle, 95 milliards de dollars. Maintenant, petit détail croustillant, parce que c'est toujours dans les petites lignes que ça se passe, les actions détenues par les insiders, les fondateurs, les premiers employés, les VC, qui sont là depuis le début, eh ben, ils sont bloqués jusqu'à fin août, soit 84 millions d'actions qui vont revenir sur le marché fin août, puis ensuite 87 millions de plus fin septembre, soit en gros 5 à 6 fois le nombre d'actions actuellement en circulation. Donc je vous laisse imaginer la scène fin août, hein. Les insiders, ils ont attendu des mois pour vendre un truc invendable qui ne valait techniquement rien. Vous croyez vraiment qu'ils vont rester là en mode « Non, non, moi je crois aux fondamentaux à long terme. » Ils vont vendre. Ils vont vendre à la première occasion. Mais attendez. Attendez parce que c'est pas fini. Sur les 24,6 milliards de carnets de commandes de Cerebras, 20 milliards proviennent d'un seul client. Et ce client, c'est OpenAI. 20 milliards sur 24,6, soit 80% du backlog. OpenAI, la boîte dont la CFO a dit l'autre jour qu'ils étaient un petit peu serrés au niveau du cash. OpenAI, qui doit du fric à tout le monde, qui finance ses contrats avec Nvidia, qui finance ses contrats avec CoreWeave, qui finance ses contrats avec Oracle, qui finance ses puces avec Nvidia. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue, et qui se digère lui-même, et qui demande à son banquier de financer le tout. Bienvenue donc dans la dépendance circulaire de l'écosystème intelligence artificielle. Cerebras vient juste de s'asseoir à la table avec tout le monde. Et tout le monde pense que Cerebras, c'est le copain de quelqu'un d'autre. Et personne ne sait qui va payer l'addition à la fin. Pendant ce temps-là, Trump est à Pékin. Premier voyage d'un président américain en Chine depuis 9 ans, blablabla. Il a embarqué dans son avion Musk, Wang, Cook et une douzaine d'autres patrons américains, blablabla. En gros, c'est un voyage scolaire, mais avec beaucoup plus de pognon et beaucoup moins de jus de fruits. Wall Street a fantasmé depuis des semaines sur une commande de 500 avions chez Boeing. Trump sort du banquet d'État tout à l'heure. Il annonce fièrement 200 avions. Boeing aftermarket, boum, moins 5%. 200 avions, c'est beaucoup. C'est même gigantesque. Sauf que pour le marché, eh ben, c'est pas assez gros. Oui, parce que le marché en 2026, c'est comme un enfant gâté, hein. Vous lui offrez une PlayStation 5 et il va faire la gueule parce que c'est pas les bonnes manettes qu'il voulait à l'intérieur. Le PDG de Boeing avait dit que la commande finale, ça dépendrait des négociations à 100%. Apparemment, ça dépendait aussi du niveau d'attente des analystes. Alors oui, il y a eu d'autres deals, hein. La Chine va acheter du pétrole américain et des céréales. Très bien, super. Et pendant ce temps-là, Jamieson Greer, le gars du commerce à New York, aux États-Unis, annonce en direct sur Bloomberg que les restrictions d'import-export sur les puces de l'IA n'ont pas du tout été abordées au sommet. Donc Trump dit une chose à Fox, Greer dit l'inverse à Bloomberg. Bref, ils ont aussi parlé avec Xi à propos de Taïwan. Xi a glissé délicatement que mal gérer le dossier mettrait la relation Amérique-Chine dans une zone extrêmement dangereuse. Trump a rien dit pour une fois. Et puis alors maintenant, le petit moment qu'on préfère tous, le petit aparté éthique. Le bureau de l'éthique gouvernementale américain. Alors attendez, je vais la refaire. Non mais vraiment, parce que je viens de réaliser un truc. Il existe un bureau de l'éthique gouvernementale aux États-Unis. Si, si, vraiment, ça existe. En plus, c'est comme si McDonald's publiait un rapport officiel sur la diététique. Comme si les pétroliers organisaient le sommet du climat. Bref, ce bureau a publié hier un document de 113 pages qui révèle que Trump a acheté des actions Boeing et Nvidia le 10 février, donc avant son voyage à Pékin, avant la guerre qu'il a lui-même déclenchée au Moyen-Orient, et plus globalement, Trump a fait 36 achats similaires au premier trimestre, plus de 2000 transactions au total. Le porte-parole de la Trump Organization nous assure que tout est géré par des portefeuilles modèles informatisés sans aucun input du président. Mais bien sûr, mais on vous croit. Bon, bref, maintenant on va être sérieux 2 minutes parce que tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de raconter, c'est juste du bruit. 10 minutes de bruit. Le vrai truc, c'est que il se passe un truc sur le marché obligataire. Le 30 ans américain a clôturé hier à 5,06. Premier passage net au-dessus des 5%. C'est la première fois depuis 2007 que ça arrive. Donc, en 19 ans. 19 ans qu'on n'avait plus vu ça. Et je vous laisse vous souvenir ce qui s'est passé l'année qui a suivi 2007. Donc, 2008. Il s'est passé un truc, ça commence par sub et ça finit par prime. Bref, le 10 ans est à 4,51, le 2 ans frise les 4, et là, c'est crucial parce que le 2 ans est désormais au-dessus de la fourchette haute que veut la Fed. Donc, le marché obligataire tout seul, sans demander la permission à personne, est en train de monter les taux à la place de la Fed. Trump avait foutu Powell dehors parce qu'il voulait quelqu'un qui baisse les taux. Il a nommé Kevin Warsh pour qu'il baisse les taux. Et Warsh voulait pouvoir commencer à baisser les taux dès le premier jour. Sauf que le marché obligataire vient de menotter Warsh avant même qu'il ait franchi les portiques de sécurité. Warsh ne peut plus baisser les taux. Et entre nous, il pourrait même être obligé de les monter. Vous imaginez la tête de Trump quand il va découvrir que son poulain va devoir faire l'inverse de ce qu'il avait demandé ? Je pense que la couleur de son visage va passer par une gamme qu'on n'avait jamais vue. Donc la probabilité d'une hausse des taux d'ici décembre est passée à 40%. La probabilité d'une baisse, moins de 2%. On est passé de combien de baisses cette année à est-ce qu'on va monter ou pas ? En quelques semaines. Et là, attention, on n'a même pas parlé du plus grave. Parce que pendant que tout le monde regarde le 30 ans américain, personne ne parle du 10 ans japonais. Il est à 2,70 ce matin. Le carry trade, vous vous souvenez ? Cette mécanique infernale où des fonds empruntent en yens à quasi zéro pour acheter des actifs américains qui rapportent 5%. C'est un commerce gigantesque, une machine à fric. On parle de trillions de dollars à l'intérieur. Personne ne sait exactement combien, mais on sait qu'on est rentré dans une zone dangereuse. Quelque chose se prépare au pays du soleil levant et l'Occident, eux, ils regardent Cerebras et Cisco avec des yeux pleins d'amour. Petit dernier point, parce qu'il faut quand même bien que je vous parle du baril. Ce matin, le WTI est à 102$, le Brent casse les 107, le détroit d'Hormuz, il est toujours fermé, techniquement. Le gallon d'essence est à 6,50 en Californie. Il y a un type qui a dit que c'était vraiment painful. Bah tu m'étonnes, nous on a 9 balles le gallon, c'est plus que painful. Hein. Ça frise le sadomasochisme. Mais bon, on s'en fout parce que Xi va parler à l'Iran, Trump est en train de perdre patience et le S&P va atteindre les 10 000 la semaine prochaine. Ça ne m'étonnerait même plus. Donc, récapitulons. On a un marché qui fait des records absolus tirés par 13 titres sur 4,250. On a une VIX qui est dans le coma, elle est dans le coma tout simplement. On a un marché obligataire qui a coincé la Fed dans les cordes. On a l'inflation qui revient et qui n'est pas contente. On a un PPI à 6% et ça ne laisse rien augurer de bon. On a même un 10 ans japonais prêt à débrancher le carry trade global. On a un président qui a acheté Boeing et Nvidia avant son voyage où Boeing et Nvidia devaient gagner du pognon. On a une IPO à 95 milliards où 80% du carnet vient d'une boîte qui est en train de serrer son budget. Tout va bien. Et même si ça va mal, c'est pas grave, ça ira mieux demain. Je sais pas si vous voulez mon avis, bah je vous le donne quand même, hein. On vit un moment historique. Pas dans le sens champagne et confetti, dans le sens dans 10 ans, on va faire des documentaires Netflix là-dessus, avec des analystes qui diront, on aurait dû voir les signaux. Les signaux sont là, hein. Le 30 ans à 5%, le 10 ans japonais à 2,70, 13 titres qui tirent le monde, Cerebras qui vaut deux fois Renault, Trump qui trade depuis le bureau ovale. Si vous voyez pas le précipice, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est juste que vous regardez pas au bon endroit. Passez un excellent week-end, on se voit lundi matin, Trump devrait commencer à nous filer des news autour de 5h du mat, et nous on se retrouve ici pour décortiquer tout ça à ce moment-là. Pensez à liker, partager et commenter, à vous abonner et activer la cloche, et puis si vraiment, vraiment vous vous ennuyez, demain il y aura encore le Swiss Bliss. Allez, bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.